Bien, nous allons donc commencer. Je vous prie de nous excuser de ces quelques minutes de retard dues à quelques petits ratages autour de la gare. Voilà. Je remercie la librairie Mola d'accueillir Jean Allouche à travers un nouveau livre qu'il a pu nous donner et dont le titre est extrêmement condensé et compressé, dont peut-être il pourra dire qu'est-ce que c'est que cette compression, un peu musicale du reste, qui s'appelle « L'amour Lacan ». Ça fait penser à un titre un peu blanchotien, « L'attente, l'oubli ». Il y a une musicalité du « là » qui m'apparaît. Voilà. Ce qui est étonnant du reste, puisqu'on a vraiment affaire à un volume. Voilà. Alors il arrive à Jean Allouche d'écrire des petits opuscules, de tout petits opuscules, comme la psychanalyse est-elle un exercice spirituel, par exemple, mais il lui arrive aussi d'écrire des volumes, notamment autour de l'aimé de Lacan, et notamment autour de la question du deuil. Voilà. Volume est un mot intéressant, puisque c'est un mot à plusieurs dimensions, un mot qui aussi rappelle cette question de l'enroulement de ces papiers, de ces cylindres autour d'un bâton. Donc peut-être va-t-il vous conduire dans tous les enroulements et déroulements qu'il a repérés autour de ce travail de sériel très précis concernant la façon dont Lacan a mis en jeu cette notion d'amour, cette notion de transfert, de sujet supposé savoir, les entrelacs et les liens, les changements, les chassés-croisés aussi avec le rapport sexuel, autour de tous ces termes lacaniens, sans pour autant les prendre comme des catéchismes, mais en essayant, en tant que lecteur, de les faire jouer. Voilà. Donc je lui laisse la parole.
Bien, merci beaucoup. Merci donc effectivement à la librairie Mola qui m'accueille aujourd'hui si gentiment. Je ne vais évidemment pas résumer comme ça en une heure un pavé de je ne sais combien de pages. Et j'ai plutôt choisi de vous introduire à une question qui est voisine, qui s'articule avec ce dont il s'agit dans ce livre, en préparant quelque chose d'inédit, c'est-à-dire que voilà quelque chose dont je n'ai parlé nulle part ailleurs et que j'ai un peu travaillé pour notre réunion d'aujourd'hui. C'est une histoire. Olivier Flournoy, j'imagine que ce nom ne vous dit pas grand-chose. Olivier Flournoy était un psychanalyste. Il est décédé. Et juste avant de mourir, il a écrit un livre qui est à la fois un livre de théorie et de mémoire. Donc Olivier Flournoy était un psychanalyste suisse et d'une grande famille de psychanalystes. C'est-à-dire que son père lui-même était psychanalyste. Et même quand il était âgé de 3 ans, son père l'avait pris dans ses bagages avec sa femme et sa sœur aînée pour quelques mois passer à Vienne pour que le père puisse faire son analyse chez Freud. Donc il était vraiment, vous voyez, dans une espèce d'ambiance psychanalytique comme il y en avait à l'époque. Et d'autant plus que la sœur de son père a épousé le fils du grand linguiste de Saussure. Et ce fils, donc, est lui-même devenu de Saussure, est lui-même devenu psychanalyste, ainsi que, donc, sa femme, c'est-à-dire la sœur du père d'Olivier Flournoy. Vous voyez, ça fait une espèce de grande famille psychanalytique comme il y en a eu quelques-uns dans l'histoire du mouvement analytique. Et donc, Olivier Flournoy vient à Paris et fait son analyse, décide de faire son analyse avec un psychanalyste, je ne sais pas si son nom vous dira quelque chose, qui s'appelait Daniel Lagache. Daniel Lagache, ça vous dit quelque chose, Daniel Lagache? Il était professeur à la Sorbonne. Il a été mon prof, d'ailleurs, à la Sorbonne, en philo. Et il était partisan de quelque chose qu'il appelait l'unité de la psychologie. Et c'était un point de différence, pour le dire à minima, et quasi de rupture avec Lacan, qui, lui, n'était pas du tout partisan de l'unité de la psychologie. Et donc, Olivier Flournoy fait son analyse didactique avec Daniel Lagage, qui le reçoit comme il se devait, ou comme il s'imposait lui-même, Lagage, de le faire, qu'il reçoit strictement 45 minutes chacune des séances de cette analyse. Et puis, à un moment donné, il décide d'aller demander à faire son contrôle, donc il suit le cursus. Il décide d'aller demander de faire son contrôle chez Lacan. Et là, il y a un petit sketch qui est assez amusant. Je me mets lunettes pour vous le lire textuellement, ce qu'a écrit Olivier Flournoy de sa première rencontre avec Lacan. Donc voilà, il lui dit « J'aimerais faire un contrôle avec vous. »« Ah !» répond Lacan. « Vous faites une analyse avec qui ?»« Lagage. »« Vous avez lu Freud ?» Oui, enfin. Eh bien, lisez-le et revenez me voir après. Voilà, c'est la première séance, donc pas de rendez-vous suivant. Donc, quelques temps après, il renouvelle sa demande et il entreprend en effet son contrôle chez Lacan. Mais bientôt, il est un peu agacé parce que, alors que chez Lagage, comme je vous le disais, les séances duraient 45 minutes, chez Lacan, ça durait 5-6 minutes, et puis voilà. Donc, il est, ça finit par le fâcher, il est très mécontent, et un beau jour, il décide d'arrêter ce contrôle où Lacan ne lui laissait pas assez de son temps. Et il décide d'aller poursuivre son contrôle chez notre psychanalyste connu à l'époque, qui s'appelait Pache, qui était un didacticien de l'international psychanalytique, qui avait ce Pache, cet international qui avait en quelque sorte beaucoup reculé à admettre ceux qui avaient fait scission, c'est-à-dire justement notamment Lacan, Dolto et d'autres. Et donc il va faire son contrôle chez Pache jusqu'au jour où il lui arrive une aventure un peu curieuse. Il est en voiture. Il se rend chez son contrôleur et, comme il l'écrit lui-même, il écrit « J'ai crevé un pneu ». Vous entendez, hein, « J'ai crevé un pneu », je ne sais pas, il faut avoir un couteau et crever un pneu, sinon, je ne sais pas, un pneu, c'est crevé, ou qu'est-ce que c'est que ce jeu qui vient ici, quoi, « J'ai crevé un pneu », comme si c'était effectivement lui qui avait crevé le pneu. Alors bon, il fait comme ce que nous faisons tous dans pareille occasion, il descend, il prend son cric, et là, impossible de trouver le trou où insérer le cric. Donc ça dure quelques instants, pendant ce temps, l'aiguille tourne et il risque de rater son contrôle chez Pache. Il appelle un garagiste. En ce temps-là, semble-t-il, les garagistes arrivaient très rapidement. Il appelle un garagiste et le garagiste vient. Et au moment où le garagiste arrive, tac, il sait où est le trou qu'il cherchait en vain. Donc, vous voyez, il est doublement surpris. Et surpris de ne pas avoir trouvé le trou alors que, bon, voilà, c'était pas si compliqué que ça. Et ensuite, surpris de justement pas avoir eu besoin que le garagiste lui-même insère le cric, puisque le trou, il a trouvé au moment où le garagiste arrivait. Donc là, il s'est dit, il y a quand même quelque chose qui va pas avec moi, mes affaires de contrôle. Et donc, il téléphone et à Pache et à Lacan, parce que Lacan, il avait quitté sans le dire, sans le prévenir. Simplement, il n'était pas revenu à sa prochaine séance. Donc, il téléphone à Pache pour s'excuser d'avoir manqué ce contrôle, et il téléphone à Lacan pour lui dire que, bon, en effet, il avait décidé de ne plus y aller, mais qu'il voulait revenir, mais quand même à une condition, c'était que Lacan le garde plus longtemps. Et Lacan lui a dit « Ok ». Et donc, c'est ce qui s'est fait. Désormais, il avait des contrôles sensiblement plus longs que dans sa première période de contrôle chez Lacan. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette petite histoire, c'est presque une fable, je dirais, c'est la moralité qui s'en déduit, que lui-même en déduit. Parce que il avait les éléments de comparaison, donc, par sa double expérience de contrôle, pour ne pas parler de son analyse, il avait des éléments de comparaison de ce que c'était un contrôle chez un didacticien classique de l'international psychanalytique, de l'IPA, et un contrôle chez Lacan. Et alors je vais vous lire là ce qu'il dit, parce que c'est préférable d'avoir ces mots plutôt que je mette les miens dans une sorte de paraphrase. Voilà ce qu'il dit. Pache m'a séduit d'emblée, non pas intellectuellement, mais bien comme on séduit un élève en résolvant ses problèmes et en lui montrant ses erreurs sans lui en tenir rigueur. Mais petit à petit, voilà, le mai arrive, j'ai pris conscience du fait qu'il me parlait de mon patient comme s'il le connaissait. Ou tout au moins, comme s'il connaissait ses tenants et aboutissants psychiques. Cela ne tenait pas debout. Ce que je lui disais n'était que paroles rapportées. Donc voilà le point de critique qui a fini par émerger dans son contrôle avec Pache. Et tout se joue au niveau du savoir. Pache savait ce qu'il en était de la composition dynamique, psychique de son patient et intervenait en fonction de ce savoir. Évidemment, puisqu'il s'agissait de paroles rapportées, lui, Flournoy, savait bien que, en fait, Pache jouait à savoir, mais ne savait pas. Alors, chez Lacan, je cite encore, donc Lacan, en quelques minutes, faisait œuvre d'accoucheur, de maïeuticien, dont je sentais et éprouvais les suites et y réfléchissais longtemps après l'avoir quitté, alors que Pache me laissait le goût d'une satisfaction momentanée, débouchant sur une insatisfaction durable. Voilà, Lacan questionne, d'ailleurs sans bienveillance particulière, parfois explicitement et d'autres fois du fait de ce que Flournoy appelle son, je cite, attente invitante inquiétante. Voilà, comment est-ce que Flournoy accueille cette attente ou ces questions quand il y avait des questions? Voilà, Flournoy se rend compte que Lacan ne s'intéressait pas au patient de son contrôlé, mais s'intéressait à son contrôlé. Ce qui importait pour Lacan, c'était les questions que se posait le contrôlé, pas ce qu'il en était chez le patient du contrôlé. Et c'est ça que Flournoy, qui n'a pas été à l'école freudienne, qui était membre de l'IPA, c'est-à-dire du côté de chez Pache par la suite. C'est le témoignage qu'il donne donc de ce que c'est qu'un contrôle chez Lacan. Voilà, il donne un exemple. Enfin, il en donne plusieurs. Je vous en donne juste un. Voilà, un jour, une séance de contrôle. Alors, bon, ça c'est Lacan qui parle. Oui, dit Flournoy, j'ai trouvé un jeune philosophe désireux de faire une analyse. Je lui ai demandé 800 francs et on commence demain. Alors, je cite encore Lacan, laconique. Ça, c'est la didascalie de Flournoy. Jeune. Et tout de suite, ça l'arrête. C'est-à-dire, il se dit, ah ben oui, pourquoi est-ce que j'ai dit jeune? Est-ce que c'est pour traiter Lacan de vieux? Est-ce que c'est parce que pour lui dire que je me trouve vieux au regard de ce nouveau patient ? Enfin, moi, toute une série de questions se posent du simple fait que Lacan a dit « jeune ». Et bon, donc il développe un petit peu ce point. Ensuite, Lacan dit « philosophe ». Alors, petite machine se met en marche. Pourquoi l'ai-je présenté comme un philosophe ? Est-ce que c'est vraiment ça la caractéristique principale que j'aurais dû mentionner en tout premier ? Ou bien est-ce que je dis philosophe parce que j'ai regretté moi-même de ne pas faire des études de philosophie ? Ou bien est-ce que je suis en train de dire à Lacan que je sais que lui-même a regretté de ne pas faire des études de philosophie ? Enfin, voilà, toute une série de questions comme ça qui se développent. C'est-à-dire que chez Lacan, c'est questionnant. Alors que chez Pache, c'était un savoir constitué qui était appliqué au cas et qui était centré sur le cas et qui n'était pas lui-même ce savoir en question. Donc voilà cette différence qui, je crois, est assez parlante. J'espère que ça vous dit quelque chose. Toujours est-il que le point de clivage, ça se joue sur la question du savoir. Pache savait et Lacan questionne. Et d'ailleurs, quand Pache commente son contrôle chez Lacan, là aussi je vais vous dire textuellement ce qu'il en dit. Voilà, il dit « Je n'ai jamais trouvé Lacan désagréable, critique, méprisant, moqueur. Je ne l'ai jamais entendu user de mots psychanalytiques. Jamais il ne m'a expliqué quoi que ce soit. Jamais il ne m'a dit que c'était bien ou mal. Jamais il m'a signalé comment il aurait fait lui-même si c'était lui qui avait reçu le patient. » Voilà. Une position donc de essentiellement questionnante, invitante, centrée sur la personne qui parle avec Lacan et pas sur la personne dont cette personne parle, et donc un clivage assez clair, je crois, entre d'un côté un analyste qui sait, un psychanalyste qui sait, et de l'autre côté un psychanalyste qui questionne. C'est-à-dire chez qui le savoir est troué et qui en quelque sorte accueille ce qui lui est dit justement sous cette forme questionnante pour en dégager un savoir, et si ça se trouve un savoir inédit, et justement si ça se trouve un savoir qui met en question le savoir qu'on croit avoir acquis antérieurement. Or ce point-là, donc ce trou dans le savoir qu'on voit bien fonctionner dans ce contrôle, ce trou dans le savoir, c'est autour de lui en quelque sorte que Lacan aura fini par problématiser la question de l'amour. Donc en le réglant sur quelque chose qu'il a appelé le sujet supposé savoir, mais justement c'est pas un sujet qui sait, c'est la supposition d'un sujet qui serait en quelque sorte qui serait lié au savoir. Il y aurait de ce savoir supposé, il y aurait un sujet. Et donc on va pouvoir éventuellement imaginer que c'est le psychanalyste, mais c'est pas obligatoire. Toujours est-il que c'est précisément sur cette figure-là cette figure-là, dite sujet supposé savoir, comme une sorte de masque, mais qui ne bouge pas le trou du savoir, justement. C'est sur cette figure-là qu'en est venu à se greffer la question de l'amour chez Lacan. Alors je vais vous en dire deux, trois mots, parce que je préférerais je préférerais peut-être qu'on cause plutôt que... j'allais beaucoup plus loin dans l'exposé. Je vais quand même, non pas, comme je vous le disais au début, résumer ce livre qui... ce que je ne saurais pas faire, mais vous dire comment il s'est fabriqué avec quelques surprises de mon côté. Plusieurs surprises qui se sont en quelque sorte, vous savez, un peu comme l'huile avec son cric et son trou dans la voiture, moi aussi j'ai eu quelques surprises en écrivant ce livre. La première, c'était déjà que je m'intéresse à cette question, parce que j'y étais pas spécialement porté, et cela s'est trouvé comme ça dans les circonstances suivantes. Je proposais un séminaire à Paris depuis des années et des années, et depuis quelque temps, ce séminaire était centré sur la pratique analytique comme une pratique érotique. Alors, voilà, j'ai fait valoir ce point, ça a constitué aux yeux de certains un petit scandale, alors que c'est d'une évidence depuis l'origine de la psychanalyse. C'est tout à fait présent chez Freud que le rapport qui s'instaure est un rapport libidinal, que ce qui se modifie chez le patient, c'est les investissements libidinaux. Donc, bien évidemment, la psychanalyse est ce que j'ai appelé donc à l'époque une érotologie de passage, c'est-à-dire un moment où les configurations libidinales de quelqu'un se modifient d'une certaine façon et d'une façon qui font que les satisfactions libidinales sont moins génératrices de symptômes. Et alors, pendant que je travaillais cette question de la psychanalyse comme érotologie de passage, des gens de mon séminaire m'ont dit « Alors l'amour ?» Voilà. C'était d'ailleurs plutôt des femmes qui se sont comme ça levées pour me dire « Mais vous parlez d'érotique, d'érotologie, alors qu'est-ce qu'il en est de l'amour ? Qu'est-ce qu'il en est notamment de l'amour de transfert ?» Donc j'ai pris ce défi au sérieux. Je dirais presque pour mon malheur, parce que ça m'a demandé après ça 7 ans de galère. Mais bon, voilà, ça a été comme ça. Je l'ai pris au sérieux et j'ai commencé à m'intéresser à l'amour chez Lacan, ce que à ma connaissance personne n'avait fait sérieusement jusque-là. Et la première surprise est tout de suite venue, dès la première séance de ce premier séminaire consacré à l'amour. J'ai consacré, je crois, 4 années de séminaire à l'amour chez Lacan, et ensuite suivi de 3 années d'écriture du livre à partir du séminaire, et aussi à partir de ce qui se passait au moment même de l'écriture. Première surprise, donc, première séance de séminaire. Au moment où je la prépare, je suis amené à me rendre compte qu'il n'y a pas de théorie de l'amour chez Lacan. Ça m'a étonné. Je pensais que j'allais pouvoir comme ça faire apparaître dans la suite des séminaires une théorie de l'amour qui serait une théorie lacanienne de l'amour. Ce qui est apparu, donc, mais passablement plus tard, c'est une autre figure de l'amour, ce qui n'est pas pareil qu'une théorie de l'amour. Ce que j'appelle l'amour Lacan, c'est une figure de l'amour. Donc, premier point, pas de théorie de l'amour. Et puis, il y a eu une seconde surprise qui m'a fait dévier de ce qu'aurait pu être mon premier projet, qui était d'éclaircir quelle était la théorie de l'amour chez Lacan. Donc, première surprise, pas de théorie de l'amour. Deuxième surprise, Philippe Solers publie dans sa revue L'Infini un petit texte qu'il appelle « Lacan même ». Donc même, M et un petit chapeau, M-E, hein, pas M apostrophe A-I-M-E. Lacan même. Enfin, évidemment, vous imaginez, venant de Solers, que ça... Qui s'est amusé avec cela discrètement, et de manière peu appuyée. Et dans cet entretien qu'il publie dans L'Infini, ensuite c'est devenu un livre, ensuite bon, il y a eu des rebondissements, je vous passe les détails. Dans cet entretien qu'il publie, elle lui demande à un moment donné, celle qui l'interroge, elle lui demande... je ne sais plus exactement la formule à présent à l'esprit, mais est-ce que Lacan, je vais le dire comme ça, ce n'est pas textuel, mais je préfère vous le dire comme ça plutôt que d'ouvrir le livre et de retrouver le passage. Elle lui dit, est-ce que vous êtes en train de dire que Lacan n'a pas été aimé et il répond, Solers répond oui. Lacan n'a jamais obtenu l'amour. Il faut que je le lise quand même, sinon ce ne sera pas clair. C'est la page, vous savez, vous savez.
Ah oui, absolument.
Bon, moi, j'ai oublié.
Je crois que c'est au début, mais... Dans le début.
Voilà, qu'est-ce qu'il cherchait finalement, Lacan? Selon vous, qu'est-ce qu'il cherchait? Solers réfléchit. L'amour qu'il n'a pas obtenu. Qu'il n'a pas obtenu? Il n'a pas été aimé. Qu'il n'a pas obtenu quand? Jamais. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le début de ce dialogue. L'amour qu'il n'a pas obtenu, l'amour... Lacan cherchait l'amour qu'il n'a pas obtenu. Donc ça peut se lire comme ça se lit dans la suite du dialogue, c'est-à-dire il n'a jamais été aimé. Mais ça peut se lire aussi d'une autre façon. C'est... Qui est ma définition de cette figure de l'amour que j'appelle l'amour Lacan, c'est-à-dire cet amour Lacan, c'est obtenir l'amour que l'on n'obtient pas. Ça peut se lire comme ça. Et ensuite, bon, évidemment, il faut un certain nombre de pages pour étayer cette lecture, pour la faire valoir par rapport à la bêtise commune. Oh, ben, il n'a pas été aimé, quoi. Il n'a pas été aimé. On peut le dire de n'importe qui, on peut le dire de tout le monde, ça n'avance à rien. Tandis que ce que cherchait Lacan, c'est obtenir l'amour qu'on n'obtient pas, ça donnait un certain trait à cette figure de l'amour qui est un trait que je dirais presque définitionnel, mais qui surtout, en quelque sorte, venait à l'endroit d'un problème qui n'avait, à mon avis, jamais été résolu dans la psychanalyse, c'est-à-dire la question de l'amour de transfert. L'amour de transfert, c'est, vous le savez, le fait que les premiers psychanalystes, Freud, ses premiers compagnons, ont noté que, alors que le dispositif analytique n'était pas du tout prévu pour cela, ont noté que, bien, l'amour investissait le dispositif et l'investissait aussi de manière qui pouvait être négative, qui pouvait être positive si, grâce à cet amour et au nom de cet amour, le patient, puisqu'on disait patient à l'époque, le patient pouvait en quelque sorte bien travailler sur le divan. Mais ça pouvait être négatif si cet amour devenait passionnel et se mettait à exiger de l'amour en retour, Freud et d'autres, les premiers compagnons le constataient, auquel cas, ça y est, c'en était fini du travail analytique. Il s'agissait de se faire aimer, il ne s'agissait plus d'étudier ses rêves, ou ses lapsus, ou sa vie érotique, sentimentale, ou quoi que ce soit d'autre. Donc ce trait-là, obtenir l'amour que l'on n'obtient pas, je l'ai épinglé au moment où Solers est intervenu dans mon séminaire, mais je ne savais pas encore du tout ce que je faisais en faisant ça. Et je l'ai appris bien plus tard, je m'en suis rendu compte bien plus tard, et encore en deux temps, puisque dans un premier temps, j'ai lu cet ouvrage fondamental qui est l'ouvrage de Jacques Lebrun, que j'espère vous connaissez, qui s'appelle « Le pur amour de Platon à Lacan », qui est un très très grand ouvrage, c'est un des ouvrages importants publiés ces 10 dernières années. Donc Jacques Lebrun est un spécialiste de Fénelon et a étudié donc beaucoup, c'est lui qui a publié Fénelon dans la Pléiade, et il a beaucoup étudié le rapport de Fénelon et de Madame Guyon et le type d'amour que ça mettait en jeu. Le type d'amour, pas tellement entre eux, mais le type d'amour que chacun avait avec Dieu, dans une espèce de fraternité amoureuse qu'ils avaient aussi entre eux. Et la formule de cet amour mystique, donc, est très analogue à la formule « obtenir l'amour que l'on n'obtient pas ». Elle se présente comme un paradoxe, puisque dans cet amour mystique, ce que le mystique dit à Dieu, c'est la chose suivante, ce qu'ils ont appelé la supposition impossible, c'est la chose suivante. Quand bien même Dieu me haïrait, quand bien même il me condamnerait aux enfers pour l'éternité, je ne la n'aimerai pas moins. Donc voilà, si vous voulez, c'est une position qui est opposée à une figure de l'amour qui est très présente, je crois, dans notre modernité, qui est l'amour-échange. Je te donne et tu me donnes. Je te donne ceci, tu me donnes cela. Pas du tout. Cet amour-échange qui donc existait, vous le savez, dans le catholicisme, le clergé tenant beaucoup à ce que le fidèle puisse penser qu'en se comportant bien moralement, il va gagner le paradis. Mais l'amour mystique, évidemment, n'est pas du tout de cet ordre-là, puisque l'amour mystique préserve la liberté de Dieu. C'est-à-dire, le mystique, au sens de Madame Guyon, aime Dieu, mais laisse absolument Dieu libre de le condamner en enfer si telle est sa volonté. Donc c'est un amour qui va avec la liberté laissée à l'autre. Et donc cette supposition impossible, elle était proche de l'affaire que Solers m'avait refilée sans le savoir, cette affaire d'obtenir l'amour que l'on n'obtient pas. C'est-à-dire qu'on l'obtient, mais on l'obtient comme ne l'obtenant pas. C'est-à-dire que c'est pas obtenir ou ne pas obtenir, c'est pas binaire. C'est un amour qui est auto-limité. C'est un amour qui comporte en lui-même sa propre limite. Non pas une limite au sens où l'objet aimé meurt, et donc y a une fin, non pas où il y a une séparation des amants, non, au sens où c'est dans l'amour lui-même qu'il y a quelque chose comme une limite qui est prégnante. Et donc, il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, entre amour et liberté, contrairement à ce qu'il se dit presque partout, à savoir que si j'aime, je cesse d'être libre.